Nous allons aujourd'hui, enfin dans cet après-midi, notre avant-dernière rencontre, mais qui en tout cas fera la clôture de la phrase capitulaire, marcher ensemble dans l'amour et la vérité pour vivre la communion et la mission. Nous allons nous plonger dans le texte du bon samaritain. Et avant de le décortiquer, de le commenter aussi avec une petite œuvre d'art aussi qu'on contemplera, qui est celle du Bon Samaritain de Van Gogh. Donc c'est pas ce que vous avez là. Ça, c'est une petite modification. Parce qu'en fait, comme le premier jour, il y a eu un petit décalage où je pensais pouvoir commencer dès le matin avec l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Il y a un petit décalage. Donc nous verrons ça demain. Donc aujourd'hui, le texte du bon samaritain que je vous propose de méditer un petit peu de la même manière, en tout cas pour commencer, que la fois dernière lorsque nous avons fait notre petite lectio divina. Ici, de refaire une petite lectio divina à partir de ce texte que je commenterai ensuite. Toujours dans cette perspective de la mission et du prendre soin. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement, fais ainsi, tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha, pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais de même. La fois dernière, prenons 2, 3 minutes pour simplement noter, écrire sur vos papiers, ou ce que vous voulez, mais en tout cas retenir. Un passage, un mot, une expression qui vous saute aux yeux, qui arrête votre pensée ou votre réflexion, qui aujourd'hui s'est révélée un peu plus forte que d'habitude. Ben voilà, notez là, et puis après nous en partagerons le fruit à ceux qui nous entourent. Donc, pendant 1 ou 2 minutes, écrire ce que ce texte, juste dans les mots, pas dans de l'interprétation, pas dans de l'interprétation, simplement le texte provoque, vous arrête, vous interroge. parcourir par 4, 3, 4, 5 peut-être, en fonction de votre positionnement, mais pas plus, simplement pour échanger, voilà, vous dire très simplement, sans commenter particulièrement, mais simplement vous dire, voilà, moi aujourd'hui, c'est sur ce mot, cette expression, cette attitude que je m'arrête. Je vous en prie, allez-y, 3, 4, 4, 5. Comment on a pu prendre la parole ? Sur ma gauche, c'est OK. Sur ma droite, on cause encore. Dans Matthieu 25, qui est à gauche, qui est à droite ? Je ne sais plus. Avant de nous replonger dans le texte, je vais vous en donner, proposer une lecture, qui n'est qu'une lecture, hein. Ce texte est tellement, 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 tellement riche de sens et d'idées que je ne prétends pas l'épuiser avec la lecture que je vais en faire. Et puis, nous le reprendrons après. Va et fais de même. Qui est le bon samaritain? Est-ce que c'est le blessé? Qui est l'aubergiste? Voilà une parabole qui peut se lire à plusieurs niveaux. Jéricho est une ville située en profondeur, au-dessous du niveau de la mer, près de la mer Morte. Un peu ce lieu de passage entre la Jordanie et Israël aujourd'hui, entre la fin de la sortie d'Égypte, de l'Exode, et le passage en terre promise. En gros, le mont Nebo est par là, enfin, c'est à peu près la même région, là où Moïse s'est arrêté, où Josué a pris la suite, à cet endroit où le peuple est passé de l'esclavage à la terre qui lui était promise, où Jésus a été baptisé, où tant de choses se sont faites, c'est quasiment à l'embouchure du Jourdain qui se jette dans la mer Morte. Donc c'est un lieu très particulier qui plus est sous le niveau de la mer. Pour vraiment montrer que géologiquement c'est le niveau le plus bas habité aujourd'hui sur la planète. Voilà donc le futur blessé ainsi que le prêtre et le lévite, l'homme du culte et l'homme de la loi qui s'éloignent de la ville sainte et qui descendent aux entrailles de la terre. L'histoire ne dit pas si le Samaritain descend à Jéricho ou s'il monte à Jérusalem. Jean nous a rappelé que pour les Samaritains, ce n'est pas à Jérusalem qu'il faut aller adorer, mais sur une autre montagne, le mont Garézim. C'est le passage de Jean 4 où Jésus rencontre la fameuse Samaritaine. Savez-vous pourquoi les Samaritains étaient si détestés des Juifs, des habitants de la capitale, ou pas? Vous savez pourquoi il y avait cette rivalité? En fait, vous visualisez, surtout pour celles qui ont fait du catéchisme, vous avez tous en tête la carte d'Israël, enfin de la Terre Sainte. Au nord, la Galilée, verdoyante, avec son lac, avec ses blés, avec tout ce qu'on veut. Au sud, la Judée, sèche, avec le désert du Négev, qui est juste au sud. Le désert, c'est très sec à cet endroit-là. C'est là aussi où se trouve la capitale, Jérusalem. Et entre deux, il y a une région, qui est la région de Samarie. La région Samarie, en fait, a été peuplée au moment de l'exil, au moment aussi des invasions, des choses comme ça, ou des repeuplements, ou des déportations aussi qui ont pu avoir lieu, la Samarie a été le réservoir, si vous voulez, de toutes les personnes que l'on ne voulait pas garder chez soi. Prostituées, bagnards, enfin tout ce que l'on veut, des gens en tout cas de mauvaise vie, qu'on a voulu rejeter loin de la bonne civilisation. Et notamment, donc, dans cette région-là, il y a eu une déportation assez massive, notamment des habitants de Babylone que l'on ne voulait plus chez soi, on a mis à cet endroit-là. Donc en gros, que des femmes, des hommes disent de mauvaise vie, on va pas faire de En gros, pour reprendre une histoire récente qui nous montre qu'en finalement on n'a rien inventé, c'est un peu la population de l'Australie, si vous voulez. Où en Australie, on a mis, l'Angleterre y a mis tous ceux qu'elle ne voulait plus voir sur sa terre, constitués bagnards, enfin des gens dont on voulait se débarrasser. Ou nous, si vous voulez, on peut aller jusqu'à Cayenne, hein, des gens aussi dont on se débarrasse, et qu'on met au loin. Donc la Samarie, c'est ça, des gens vraiment pas fréquentables. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de rejet, de mépris avec des femmes de petite vertu et des hommes au passé douteux. Donc on ne les aime pas. Nous avons coutume de lire cette parabole bien connue comme une critique, et c'en est une, des hommes de culte et des hommes de loi qui se font oublieux du corps. Le prochain, pour répondre à la question du légiste qui justifie la parabole de Jésus, ce serait alors toute personne, blessée, abîmée, meurtrie, qui se trouverait sur mon chemin. Il faudrait se laisser toucher jusqu'au cœur des entrailles et prendre le temps de le réconforter, de lui mettre des pansements, de l'emmener à l'abri, de donner, en plus de son temps, de l'argent, afin qu'un autre, l'hospitalier, celui qui est dans son hôtel, là, poursuive le soin initié jusqu'à ce que le blessé soit remis. Il me semble que cette interprétation, pour juste qu'elle soit, est vraiment faible et insuffisante. Les pères de l'Église avaient une autre lecture. L'homme étranger, hors de Jérusalem, qui marche aux profondeurs de la terre, c'est le Christ. Et l'homme blessé, abandonné, comme les foules sans berger, c'est Adam défiguré. Pas nécessairement par le péché d'ailleurs, mais par la dureté de l'existence, par le malheur, par l'épreuve. C'est toi, c'est moi, c'est nous, ensemble. Le Samaritain, l'étranger qui ne paye pas de mine, c'est le Christ. Et d'ailleurs, les docteurs de la loi ne se sont pas privés de le traiter comme tel. Jean 8, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, tu es un démon? C'est ce que l'on lit. Jean, chapitre 8, verset 48. Tous, ils voient dans ce texte. Tous, ils voient. Mais qu'est-ce que voir? Les uns voient le danger que représente cet homme. Danger d'impureté, sans doute. Lui, le Samaritain, voit le malheur de cet homme, sa misère, et ses entrailles en sont retournées. Cette expression n'est d'ailleurs réservée qu'à Jésus et à Dieu. On la retrouve aussi devant la tombe de Lazare où Jésus est remué aux entrailles. Il voit cet homme dans son dépouillement, dans sa faillite. Il voit le fond de son être. Il voit en lui la vie qui menace de se retirer. Il veut la vie pour cet homme, pour tout homme, une vie vivante. Il refuse la condamnation. Il ne voit pas d'impureté, car le regard du Christ ne voit que la pureté au fond de l'être, que son innocence lorsqu'un homme est à terre. À la différence du prêtre et du lévite qui ont peur d'être contaminés, le Samaritain, lui, rend pur ce qu'il touche. Il s'approche du blessé. Il vient près de lui, avec lui. C'est le nom de Jésus, avec nous, près de nous. C'est la promesse du Christ laissée à son Église. Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. L'Emmanuel, Dieu avec nous, présent partout et jusque-là, associant avec lui son Église. Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Jean 17. Le Seigneur, l'unique prochain, comme le bon berger devant sa brebis malade, Ézéchiel 34 qu'on a vu ce matin. Il bande le blessé, Il verse de l'huile pour adoucir sa plaie et du vin pour la désinfecter. De l'huile comme une onction. Le Messie est celui qui a reçu l'onction et il ne cesse de nous crismer, de nous oindre. Et du vin comme au banquet final. Isaïe 25. Puis, il porte le blessé sur sa monture comme il porte la brebis sur ses épaules, comme il porte toute l'humanité, comme il porte sa croix, et par elle le péché de tous les hommes, comme il porte la condamnation de tous pour que tous en soient délivrés, et vient déposer le blessé à l'abri. La mission de l'aubergiste à qui il confie le blessé est d'en prendre soin, de ne pas craindre de dépenser plus que ce qu'il a donné, car le trop dépensé sera rendu. Je ne sais si cette parabole nous dit ce que c'est que de prendre soin, mais je crois qu'elle nous dit plutôt ce que doit être la mission de l'Église, qui a reçu comme dépôt de prendre soin de ceux de ceux qui ont été relevés par la miséricorde du Seigneur, d'annoncer cette miséricorde, de la rendre effective, et d'en vivre. Quand on parle d'auberge dans l'Évangile, et ce n'est que dans l'Évangile de Luc qu'on parle d'auberge, et il y en a trois dans l'Évangile de Luc, à chaque fois, il y a quelque chose du mystère de l'Église qui se révèle derrière ce mot d'auberge. D'abord l'auberge de Bethléem, qui n'a pas su, qui n'a pas pu, qui n'a pas accueilli Jésus. Il arrive que l'Église vive sans le Christ. Il arrive que notre Église, parfois, mette de côté les appels du Christ, ne le reconnaisse pas, ne l'accueille pas, ne le reçoive pas. L'église ensuite du Samaritain, du Samaritain, on parle dans ce texte-là, l'église comme ce fameux hôpital de campagne, accueillant l'impur, accueillant celui qui ne doit pas être touché par les prêtres et par la loi, dont on a décidé qu'il n'avait rien à faire dans notre église parce qu'il était pécheur, pécheresse, divorcé, marié ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La loi également. Ah non, 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 non. On ne va quand même pas se compromettre avec ces pécheurs-là. Non. Cette femme de mauvaise vie, ce bonhomme qui je ne sais quoi, ce drogué, cet homosexuel, ce je ne sais quoi, Non, 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 non. La loi dit que non. C'est écrit dans le catéchisme numéro 1660. Si l'Église fait ça, elle n'est plus l'Église du Bon Samaritain, l'auberge dans laquelle tout le monde peut venir. Et puis, il y a la troisième auberge, qui est celle que nous avons déjà visitée cette semaine, qui est celle d'Emmaüs, qui est le lieu où Jésus se donne à voir dans le pain partagé, la communauté rassemblée, mais pas pour y rester et y passer à la limite, ils y passent même pas la nuit, hein. Souvenez-vous ce qui se passe. À peine ont-ils mangé que craque, ils fichent le camp. Ils ne sont pas reposés dans cette auberge. L'auberge de l'Église, c'est pas un lieu où on se fait, où on s'y met, entre guillemets, pour fuir le monde, pour fuir la société, et puis manger de la bonne soupe tous les jours sans plus avoir à se poser de questions. Parfois, on entre dans l'Église, à son service, comme une promotion sociale. Mais ce n'est plus la bonne église, c'est autre chose. Ça existe, mais c'est autre chose. La mission de l'église qui a reçu comme dépôt de prendre soin de ceux qui ont été relevés par la miséricorde du Seigneur, d'annoncer cette miséricorde, de la rendre effective et d'en vivre. Il y aurait peut-être un dernier niveau de lecture qui se confond avec le précédent. L'homme dépouillé, chargé de coups, à demi-mort, c'est le Christ. Ce sont les plus éloignés de Jérusalem, les publicains et les prostituées qui voient au cœur de sa misère et de la leur la source de la miséricorde. Ce sont eux qui, depuis les origines de la Bible, l'accompagnent, prennent soin de lui comme ils peuvent. Ce sont eux qui, par lui, deviennent aujourd'hui les mains de la miséricorde, le corps du Christ agissant. Je ne sais s'ils sont dedans l'Église ou dehors, je sais qu'intuitivement, ils prononcent les mots d'Étil et Soum le 12 juillet 1942. Pas une chrétienne, hein? Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas éteindre en moi, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose, cependant, m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. Va, toi aussi, fais de même. Je propose que l'on relise une nouvelle fois ce texte de Luc, chapitre 10. Voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Comment lis-tu ? » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha, pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » À nouveau, en reprenant un petit temps de réflexion personnelle, je vous invite à partir de ce texte, de ce que vous avez pu échanger tout à l'heure, éventuellement de ce que j'ai pu dire à l'instant sur le petit commentaire, eh bien, d'exprimer comment, soit à votre niveau personnel, ici à Gramma, soit pour la congrégation, comment ce texte pourrait nourrir l'avenir, le futur de votre congrégation. Comment est-ce qu'il pourrait inspirer, pourquoi pas, le chapitre qui va s'ouvrir bientôt. Comment est-ce qu'il pourrait être une sorte de dynamique et d'élan pour le bienfait de toutes les sœurs, et puis aussi pour le charisme que vous apportez comme bienfait au monde et à toute l'Église. Pas une question facile, bien sûr, mais prenez le temps pendant 2-3 minutes, et puis, de toute façon, c'est pas un texte capitulaire, il n'y aura pas à voter dessus. Donc, simplement, voilà, rêvez. Ouvrez-vous de la vigne. Sera comme tout à l'heure, 5, 3, 4, pour échanger simplement, si vous le souhaitez, ce que vous avez dit. Et après, je ferai circuler le micro pour que tout le monde puisse profiter de ce que les petits groupes ont pu trouver et imaginer. Et je vous mets sous le regard du bon samaritain. Un signe que vous ayez beaucoup de choses à prendre en compte par rapport à ce texte et ce que vous allez pouvoir peut-être transmettre ou apporter, en tout cas en prière et en souhait à votre chapitre, je vous propose qu'on fasse un petit tour rapide pour celles qui souhaitent prendre la parole, avec un micro qui peut circuler ou le mien, si c'est le mien, pour qu'on puisse entendre et partager ce que vous avez pensé et réfléchi ou ce que l'esprit vous a soufflé. Alors, qui souhaiterait faire juste partager une petite réflexion à partir de ce texte, comme espoir, comme prière, comme souhait pour votre chapitre et votre avenir, parce que c'est là que ça se finit. Allez, c'est parti.
Donc, c'est trop synthétique, mais vivre en vérité la synodalité, la XR.
Ensuite, d'autres perles. On va enfiler des perles, figurez-vous.
Alors moi, j'arrive un peu dans cette congrégation comme ça, et ce qui m'a frappé, c'est vraiment la fraternité, ce que j'ai ressenti, la bienveillance, ce regard bienveillant posé sur moi et l'accueil. Et ça, je trouve que ce sont des perles pour le prendre soin, pour être proche.
Oui, moi, je consolide avec la pensée d'une éclairage de Christine. Je suis d'accord aussi, on est petit, mais si nous prenons soin les unes les autres, il me semble que la vie religieuse, c'est la vie fraternelle, est enseignée pour le monde aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup de quantité, mais c'est qualité. C'est comme le Père a dit, tout simplement, vive d'abord l'évangile. C'est nous, c'est comme le chant tout ensemble. Il suffit de songer d'abord nos cœurs, nos convictions de chaque jour.
Merci.
L'avant veut s'exprimer aussi parce que là tout vient de l'arrière pour l'instant. Alors là on passe au premier rang.
Peut-être que chaque sœur soit saisie de compassion pour que nous arrivions à sortir des clivages habituels.
Encore l'une ou l'autre. Contribution, expression, parole à vous donner.
Comme le Christ, être saisi de compassion pour être à l'écoute de ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie, qui ont perdu le sens de leur vie.
Un peu dans le sens de la synodalité, on est en train de transmettre, parce que de sens d'une certaine manière, mais parce que je pense qu'ils savent bien aussi ce que c'est que la compassion. On transmet dans nos auberges, écoles, médico-sociales, on transmet. Et peut-être on a encore à transmettre la façon sans on fait pas mieux là, hein, mais on a à trancher avec la manière dont on s'est chargé sur nos épaules de personnes qu'on a eues. Donc on a encore quelque chose à peut-être dire là-dessus, pas à faire mais à dire. Et voilà.
Moi, ce que j'ai trouvé, c'est avec l'aide du Christ et de l'Esprit Saint, aller vers nos frères blessés, frères et sœurs blessés.
Toute dernière. Ça peut être l'avant-dernière.
Merci, mon frère. De toutes vos explications, moi, je pourrais résumer que c'est le charisme qui a été un peu développé. Nos communautés sont des auberges. Toute la congrégation aussi est auberge. Chacune de nous est auberge. Nous apportons une attention, un regard, un geste à toute personne dès qu'il nous pardonne. Donc, pour moi, c'est le charisme qui est un peu résumé.
C'était bien la dernière? Ah, c'était bien l'avant-dernière.
Moi, c'est plutôt l'image qui parle pour moi. Là, franchement, je vois trois images. Je vois d'abord, je ne sais pas si c'est un cheval ou un âne, qui est solidement bien arrêté. Pour moi, qui représente le Christ. Je vois la personne qui porte le blessé est plus âgée que le blessé. Et je fais référence un peu à notre congrégation et à notre province, spécialement en France. Mais pour moi, c'est une invitation où nous devons compter sur nos soeurs âgées. Bien vrai que nous sommes jeunes, mais je pense que nous sommes plus fragiles qu'elles. Et je vois cette image comme ça, et une interprétation au niveau de notre province, où nous avons besoin de nos sœurs âgées pour nous porter, pour nous enseigner. Et sur elles, on peut se retrouver.
Quand on regarde cette image aussi, ce que l'on peut en voir, pour ceux qui ont l'habitude de, enfin, qui connaissent un peu Van Gogh, on n'est pas du tout dans l'habitude de peinture de Van Gogh ici, où les couleurs sont ternes, froides, alors qu'en général ça explose de vie, de couleurs, de chaleur. Là, c'est du bleu, c'est un espèce de gris. C'est une espèce de terre jaunasse, où là, le vêtement du samaritain a à peu près la même couleur que le sol, donc terreux, sale. On voit deux espèces de fantômes, là, qui passent, là, sur un espèce de chemin. Il y en a un qui est tout en haut du chemin. C'est, alors, est-ce que c'est le prêtre, est-ce que c'est le lévite, on n'en sait rien. L'un ou l'autre, en tout cas, l'un et l'autre qui se suivent sans s'arrêter et qui se confondent, finalement, avec la masse sale de l'image, encore une fois, des couleurs sales. Et puis, cette espèce d'équilibre extrêmement précaire où normalement, ils devraient tomber tous les deux dans d'ici quelques secondes. Parce que l'un semble trop lourd pour l'autre, il a son pied qui tient à peu près dans une savate qui est en train de partir. Il tient, est-ce qu'il tombe du cheval? Est-ce que finalement, leur déséquilibre commun et finalement permet l'équilibre de l'un et de l'autre, où l'homme, quand il reconnaîtra et quand il reconnaît sa misère et qu'il s'abandonne aux mains de son Dieu, eh bien Dieu peut être véritablement qui il est, peut véritablement déployer tout ce qu'il est, à savoir cette espèce d'obsession, d'alliance, de lien, de sauveur qu'il veut pour chacun. Quitte à en être déséquilibré, et le déséquilibre ira jusqu'à être jeté à terre et cloué sur le bois d'une croix. Mais là, là est le jeu de la relation entre le pécheur qui voit sa misère, se laisse porter par le Sauveur. Finalement, ça tient. C'est fragile tout ça, mais finalement, ça tient. Voilà pour cet après-midi. On se retrouve pour la messe tout à l'heure. Et demain, nous ferons la clôture, demain matin. La clôture avec un dernier rapport. Et puis surtout, surtout de vous écouter, vous. Vous pouvez y réfléchir dès ce soir. Ben, qu'est-ce que cette retraite vous a apporté ou pas apporté? Qu'est-ce qu'elle a... Il ne s'agit pas, encore une fois, c'est pas pour moi. Moi, ce que je vous ai dit, c'était pour vous, et c'est à partir de votre phrase. Donc, c'est pas un bilan pour moi, c'est un bilan pour vous. En gros, voilà, comment, après une semaine, vous repartez chez vous. Soit, vous, et celle qui reste là, comment vous restez chez vous. Mais les autres qui repartent entre Toulouse et Bourg-la-Reine ou ailleurs encore, voilà. Comment est-ce que des choses ont pu éventuellement bouger, ont pu, voilà, ou bien pas, hein. Possible aussi qu'il ne s'est rien passé, mais de le noter et puis comme ça d'en faire comme une action de grâce demain, donc le temps que nous aurons demain matin, je vous propose qu'on le vive à la chapelle, qu'on ait les laudes à 9h à la chapelle, à l'oratoire, hein, comme la messe le soir, qu'on commence par comme une prière un peu longue demain matin, si vous le voulez bien, en commençant donc par les laudes à 9h. Je resterai sur place pour dire quelques mots et ensuite, sous forme un petit peu d'action de grâce ou de prière ou d'intercession, chacune pourra prendre la parole à partir de ce que cette retraite lui aura apporté ou laissé peut-être en carence ou en creux, mais de le présenter ensemble devant le Seigneur. Donc, c'était notre dernière rencontre dans cette pièce. Demain, nous nous retrouverons dans la chapelle. Ok ? Ça vous va ? Merci beaucoup. Merci.